bienvenue au Polysécur épisode technique. Je suis accompagné de Arnaud. Est-ce que tu peux te présenter?
Bonjour, Arnaud Landry, consultant cloud security chez KPMG, aussi directeur de la partie Azure Business Solutions.
Oui, et aujourd'hui, tu vas venir nous présenter le landing zone, ce terme tant utilisé, galvaudé. Je crois que beaucoup de gens le mélangent avec certains éléments. D'ailleurs, tu vas citer, je vais pas inventer ta présentation. Justement, ce qui est peut-être bien de recadrer à la bonne, un bon endroit et à son utilité, justement pour qu'on puisse faire quelque chose avec, faire quelque chose, que ça serve justement à structurer nos initiatives infonologiques correctement et que ça nous amène à du bénéfice et éviter justement d'autres dérapages, dont des dérapages financiers, des dérapages sécurité ou technologiques qui pourraient être dommageables pour l'organisation.
Bien sûr. Landing zone, c'est un concept qu'on entend souvent. C'est aussi appelé zone d'atterrissage en français, zone d'accueil. On peut aussi parler des fondations infonuagiques et on va creuser un peu le sujet durant ce podcast. C'est parti. Première étape, on va discuter du pourquoi, du pour qui, du pour quand. C'est bien de poser les bases justement pour une fondation. Ensuite, on va faire une rapide comparaison des fournisseurs, des cloud service providers. Une petite démo sur Microsoft Azure et un partage de ressources sera fait à la fin. Donc une landing zone, pourquoi, pour qui, pour quand? J'ai posé la question à ChatGPT, puisque c'est à la mode en ce moment. La définition qui me renvoie est tout à fait correcte. Une landing zone, c'est un ensemble de ressources et d'outils utilisé pour sécuriser l'onboarding, l'embarquement, la livraison de nouvelles charges utiles, charges de travail, dans un environnement infonuagique. Ça concerne généralement et ça inclut généralement la réseautique, des contrôles de sécurité, des frameworks de gouvernance, utilisés pour fournir un environnement sécurisé et conforme. Moi, j'aime bien les AI, avant nous aider plus tard dans notre métier, mais j'ai aussi ma définition que je vais compléter. Donc en infonuagique, c'est vraiment une landing zone, un concept, une architecture conceptuelle, une structuration multicompte. Donc on passe d'un paradigme où en fait on avait dans l'infonuagique, quel que soit le fournisseur, un abonnement, un compte où on mettait toutes les ressources. C'était probablement correct il y a plus de 5 ans. Aujourd'hui, on est vraiment dans du multicompte et en fait on veut que ça soit évolutif et sécuritaire. Pour ça, en fait, avec une landing zone, on va focuser sur des éléments tels que la gestion du réseau, la connectivité, la gestion des entités et des accès, et puis la mise en place d'une gouvernance et l'organisation des ressources. Une gouvernance qui n'est pas simplement basée sur des processus, mais aussi sur des implantations et des contrôles techniques. Élément important et pivot, on va dire, de ce modèle, c'est que ça favorise au maximum, j'ai au maximum, s'il y a toujours quelques petites exceptions, l'automatisation et le code d'infrastructure pour permettre une livraison rapide et sécuritaire de nouveaux environnements. Justement, graduellement, on va rajouter de l'automatisation ou de la sécurité et on va déployer plus vite tout en étant uniforme et en maîtrisant les coûts aussi. Mais il y a beaucoup de sujets, on va en discuter. Une petite image qui vaut 1000 mots, ça peut amener plein de questions, mais c'est pour ramener un peu le concept dont on discutait il y a 30 secondes, ce qui est, on a un abonnement, une subscription dans l'environnement Azure, on passe à un modèle où on structure les abonnements et on organise, on place les éléments par fonctionnalité ou par géographie ou selon un certain modèle. Donc on passe à une sorte de bucket ou de placement où on met un peu tout, à quelque chose qui est plus ordonné. Ça va permettre d'appliquer des policies, ça va permettre d'appliquer de la sécurité, ça va permettre de gérer les coûts différemment. Rappel, une landing zone, ce n'est pas un hub and spoke. Un hub and spoke, c'est un concept réseautique. Dans une landing zone, on peut avoir un hub and spoke, mais une landing zone ne se limite pas simplement à un hub and spoke. Et une landing zone ne s'applique pas simplement à du IaaS, c'est-à-dire des machines virtuelles, mais ça peut s'étendre à d'autres services. D'ailleurs, ça s'étend à d'autres services, ça permet de gérer d'autres services.
Effectivement, ça va s'étendre jusqu'à dans certaines choses qu'on pourrait considérer comme du SaaS dans les environnements Microsoft. La frontière, des fois, est parfois floue entre ces éléments-là. Et donc, certains vont justement bénéficier du landing zone pour les encadrer. J'aime beaucoup ce modèle-là parce que ça, puis surtout le diagramme, représente bien le fait que ça met, le landing zone permet de délimiter les frontières financières, les frontières sécurité, les frontières de responsabilité qui sont très importantes au lieu d'être juste un grand bucket comme tu mentionnais justement où on met tout dedans puis on espère s'y retrouver.
C'est comme c'est sûr que c'est des concepts, des modèles qui sont plus infonuagiques. On avait plus de difficultés à découper un bâtiment data center jadis. Là, c'est quelque chose qui est faisable sans réel surcoût, on va dire, qui soit totalement pénalisant. Si on regarde en fait ces différents concepts qu'on peut retrouver ou ces niveaux d'organisation parmi les deux grands principaux leaders de l'info nuagique, on retrouve en fait quelque chose à la racine qui peut s'appeler master, qui peut s'appeler root. Bref, c'est la tête, c'est le début. Dans Azure, on appelle ça un tenant. C'est souvent lié à une identité Azure AD. En fait, c'est totalement lié avec une identité Azure AD. Et dans AWS, on appelle ça une organisation. C'est à partir de là qu'on va structurer nos ressources au final. Mais entre les deux, en fait, on a ce qu'on appelle des OU, par exemple, dans AWS, ou des management groups. Ça, c'est le premier niveau en fait de structuration. Comme on peut le voir, on peut avoir des core services dans lesquels on retrouverait de la réseautique ou de l'identité. Puis, on va avoir des managed services dans lesquels on va avoir, par exemple, des applications internes, des applications e-commerce ou peut-être des données d'usine, peu importe le modèle. En dessous ça, on va avoir une donnée qui est généralement une frontière facturable. Concrètement, c'est là qu'on a on a une facturation, puis on a aussi des propriétaires et des responsables. On parle des comptes, des accounts dans AWS et des subscriptions, des abonnements dans Azure. Là, en fait, on va pouvoir les exploser en différents types selon leurs fonctionnalités. On n'a pas de raison aujourd'hui de mettre, par exemple, des journaux d'audit dans le même abonnement que le site où on a notre, enfin, que l'abonnement où on a notre site e-commerce. On peut les séparer. On peut avoir des considérations parfois du côté de la réseautique selon le transit. Mais c'est une bonne stratégie d'isoler les choses. Et enfin, on va se retrouver avec des ressources groupes et ces ressources groupes aussi et services dans Azure. C'est une sous-division, on peut voir ça comme des dossiers virtuels au sein du data center ou de l'abonnement. Ça permet de structurer les données avec une organisation plutôt que d'avoir un simple bucket où on voit toutes les ressources.
Oui,
on peut y appliquer des politiques aussi.
Oui, je soulignais le fait que AWS utilise les accounts comme étant l'unité de division qui est les abonnements du côté Azure. Vient mélanger généralement les gens, il faut faire très attention dans ces concepts-là parce que le concept d'identité chez AWS est vraiment très différent de celle de Azure et ceux qui arrivent du monde Microsoft en général où on a tendance à fonctionner plus avec un AD dans lequel qui vient déjà structurer notre réflexion d'une certaine façon. Fait qu'il faut être très prudent parce que ça l'amène d'autres concepts, d'autres éléments qui, si on ne fait pas attention, quand on arrive d'un univers puis on va vers AWS, par exemple, de Azure vers AWS, qu'on pourrait se retrouver à laisser des portes très grandes ouvertes quand on ne devrait pas les laisser si grandes ouvertes que ça, ou laisser des zones d'explosion, les zones de déflagration qui vont faire que si on a un problème de sécurité, on va toucher à beaucoup plus de ressources ou beaucoup plus d'éléments à ce moment-là si on a mal découpé, si on n'a pas les bons a priori.
Tout à fait. Le but, c'est vraiment de voir aussi les modèles quand on est dans du multi-cloud sur certaines organisations, mais d'être sûr que les modèles, que les politiques soient appliquées correctement au bon endroit. C'est aussi l'intérêt des landing zones. Une petite réflexion du côté d'AWS, justement, pour justifier la partie pourquoi un account n'est pas suffisant. Ça va être la justification de l'isolation des charges de travail. La réseautique n'est pas la seule attaque aujourd'hui possible sur des machines. On peut passer par le niveau administratif. On peut détruire un centre de données Azure, en fait, un abonnement et tout son contenu sans avoir accès au réseau, en fait, si on arrive à usurper des accès. On peut avoir une isolation aussi des besoins de visibilité, de découverte, forcément, pas forcément sur tout. Des fois, on peut l'avoir besoin. Une isolation pour le rayon d'explosion dont on parlait, en fait, ça peut être un rayon d'explosion, par exemple, sur une attaque. Si on segmente, on le sait très bien, ça permet de freiner les attaques. Et puis surtout, en fait, on peut complètement isoler, par exemple, des environnements de dev test en ayant des policies qui soient différentes et en leur interdisant toute connectivité vers le réseau, on va dire plus entreprise ou sur site. Donc, ça permet de compartimenter les choses. Et puis, l'isolation de données et puis la récupération ou l'audit, par exemple, ça aussi, c'est une justification. Sortir les journaux d'activités ou d'événements, ça permet, durant une attaque, pas à minima forcément de la stopper, mais au moins de savoir ce qui se passe, ce qui s'est passé sans tout perdre. Si on met tout dans un abonnement et que l'attaquant peut tout détruire, notamment les journaux, bah, on va tout perdre et on ne saura pas ce qui s'est passé. Donc potentiellement, ça va être beaucoup plus difficile de reconstruire. Au niveau des domaines, en fait, parce que c'est assez large et on n'est pas obligé d'adresser tout, on verra plus tard dès le premier jour, les différents domaines qui sont inclus dans une conception de landing zone, en fait, sont définis dans les Cloud Adoption Framework, qui sont aujourd'hui un peu le document de référence chez les différents fournisseurs infonuagiques, que ce soit AWS, Azure ou Google, et même les autres. On va retrouver des concepts, peut-être que les agreements, justement pour la livraison de subscription avec des ententes, des accords, notamment financiers. La partie gestion des entités et des accès, la partie organisation de ressources, ceci, ça parle généralement. Quand on tape landing zone, on trouve souvent ces arbres qui structurent les ressources, mais on voit que ça, c'est une base pour venir appliquer des politiques. La gouvernance, la facturation, bien évidemment. La partie continuité, la sécurité et conformité. Conformité, que ce soit en mode audit, évaluation, mais aussi en mode correction, voire en mode préventif. La topologie réseau et la connectivité, bien sûr, la connectivité que ce soit vers potentiellement d'autres clouds ou vers des services privés ou vers des services on-prem, puisque en fait, l'info nuagique n'a pas, dans 100% des cas, remplacé les sur-sites, au contraire, c'est une extension. La partie gestion, opération, automatisation, très important, et IAC. La partie incident response aussi, ça peut permettre de se préparer à la réponse à un incident. La gestion des secrets, qui est souvent assez douloureux, que ce soit pour le déploiement des ressources ou peu importe les types d'utilisation. Puis la partie activity log et event, qui elle aussi est généralement dans un abonnement, un compte séparé justement pour pouvoir avoir une fonction bien précise auprès des équipes. Ça, c'est un petit diagramme qui représente un peu ces design areas, c'est, on va dire ces compartiments de responsabilité. Selon Microsoft, comme on peut le voir, en fait, ici, en fait, on a des Enterprise Agreement Roles. On a un rôle qui est important, qui est le owner, et on voit bien que ce rôle, par exemple, s'applique à ce niveau de la subscription. On peut ne pas avoir de permission sur une machine virtuelle, mais on peut être abonnement, on peut être propriétaire d'un abonnement, donc on a quand même aussi une possibilité d'attaque par le biais de ces rôles-là. Donc, les landing zones viennent en explosant, justement, différents abonnements, limiter aussi ces impacts. Ça, c'est d'autres aspects aussi qu'une landing zone peut ou doit prendre en charge, ça dépend du niveau de maturité. On parle de centralisation des journaux, par exemple, ça simplifie aussi la corrélation et l'identification d'événements. On parle de Detective and Preventive Security Solution, Guardrail, c'est un terme très AWS, mais qui tend à se standardiser dans le marché. Guardrail, les garde-fous pour corriger une situation ou pour interdire une erreur. C'est pas parce qu'on fait de l'IAC qu'on va pas faire d'erreur. On peut faire des buckets S3 publics. Ça reste que c'est correct en termes d'IAC, mais c'est pas une bonne pratique. Ces politiques-là permettent de gérer ça, tant au niveau du CSP que parfois, des fois, au niveau du pipeline. La partie réseautique, on parle aussi d'ingress ou de egress. Ça, c'est aussi très important. Inspection, des fois, ça peut faire lever les sourcils lorsqu'on parle d'analyser tout le trafic sortant et de bien contrôler ce qui sort. Mais le trafic sortant, que ça soit purement réseautique ou que ça soit protocolaire au niveau de DNS, par exemple, pour avoir une meilleure compréhension, si on design correctement l'infrastructure, on est capable de mettre des emplacements d'écoute et être restrictif, puis typiquement répondre à la question, est-ce qu'on a bien bloqué l'accès réseautique vers tel domaine ou vers telle région. Ce qui est complémentaire avec l'identité. Bref, ça, c'est d'autres éléments qu'une landing zone peut et vient mettre en place. Comme je disais, un élément qui n'est pas forcément anecdotique, c'est la partie facturation. Une bonne organisation, une bonne structuration, ça permet de simplifier la facturation plutôt que d'avoir toutes nos ressources dans un bucket et puis ensuite devoir faire des queries dans tous les sens, que ce soit du Python ou du PowerShell, pour essayer de faire de la ventilation des coûts. Lorsqu'on a quelque chose qui est un peu plus cadré, ça permet d'avoir au moins des facturations qui font un peu plus de sens par rapport à l'activité. Alors, une landing zone, ça se déploie, mais ça se planifie en fait, et donc on est un peu comme des phases du cycle de vie d'un logiciel. C'est des phrases que j'ai reprises sur un site, j'ai oublié son nom. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de la conception jusqu'à la partie opération. Donc le D0, généralement, c'est la partie qui peut être considérée comme Boeing, mais c'est essentiel, c'est la fondation, c'est la conception. On n'est pas forcément encore dans le déploiement. C'est une phase qui peut être dangereuse parce qu'il ne faut pas s'y perdre. Il ne faut pas aller trop vite non plus, il faut trouver l'équilibre. La partie 1, le Day 1, c'est vraiment là où on est créatif, où on commence à déployer la landing zone, où on a l'application, la livraison des plateformes services. Ça dépend des cas, ça dépend des besoins de l'organisation, ça dépend de ses premiers use cases. Donc c'est là où on va adresser les composantes telles que l'identité, le management, la connectivity si nécessaire. Et puis enfin l'activation des landing zones, là où on va déposer en fait nos workloads. Différents modèles aussi, là c'est des phases de discussion hein, qui peuvent être à voir. Ça peut être géographique, ça peut être par département, ça peut être par palier, ça peut être, ça dépend de la créativité et du modèle de l'entreprise. Et puis le day 2, qui est la phase qui n'est pas forcément une finalité, qui est un daily operation, donc c'est le quotidien. Mais ça va être aussi une itération qui va revenir en continu, puisqu'il y a toujours des phases d'amélioration où on va revenir réaméliorer ou redesigner certains composants de la landing zone, parce que, par exemple, on rachète une organisation, ou parce qu'il y a des nouveaux services qui sont disponibles dans le cloud provider, ou parce qu'on a une nouvelle activité, par exemple.
Ouais, puis comme tu mentionnais plus précédemment, c'est l'infrastructure as a code est très important dans ce contexte-là parce que l'évolutivité est beaucoup plus facile à exécuter quand on a ce genre d'éléments-là déjà structurés dans le code. Donc, on est capable de le faire maturer normalement avec le cycle, un des nouveaux services qui sont rendus disponibles par les fournisseurs, mais aussi par l'évolution ou la maturité de l'organisation qui est grandissante. Donc, à ce moment-là, d'y rajouter on pourrait dire une complexité, mais disons, mettons les services et le fonctionnement juste en arrière en changeant l'infrastructure as a code au lieu d'avoir à recéder le travail au complet manuellement.
Bien sûr. En parlant justement des différentes étapes, ce qui est important, c'est de comprendre pour le design, pour ne pas arriver à un point de blocage, parce que c'est ce qu'on veut, c'est avoir quelque chose de fluide qui avance, qui soit sécuritaire, dans lequel on contrôle les risques. C'est de ne pas démarrer trop tôt à vouloir tout analyser. On va arriver dans un paradigme où on va passer 2 ans à analyser quelque chose, puis le jour de la livraison, de toute façon, il sera obsolète. Et il ne faut pas non plus chercher à être 100% aligné sur tout, toutes les conformités ou toutes les normes ou tous les besoins. Il faut identifier vraiment les caractéristiques les plus importantes. Pas essayer non plus de faire quelque chose qui n'a jamais existé sur site, par exemple, qui n'a jamais été une menace. Parce que tant qu'on n'a pas déployé une première charge qui devrait être, là par contre c'est important, non critique, c'est-à-dire non essentielle, non vitale, et qui n'expose pas forcément l'organisation, on ne peut pas vraiment éprouver le modèle et le faire évoluer. Donc le parfait, c'est l'ennemi du bien, c'est un peu la phrase qui résume ça. Il ne faut pas non plus être trop permissif et s'y prendre trop tard dans le mouvement et attendre d'avoir des centaines de charges, parce que sinon on va finir en blocage, ça va être extrêmement compliqué, et quand c'est compliqué, c'est coûteux. Puis en fait, on va se retrouver avec des politiques qui vont être très complexes, donc on va devoir parfois faire prendre des décisions douloureuses, détruire des choses pour les recréer, parce que typiquement, on a déployé en Amérique latine, alors que l'organisation n'autoriserait que le Canada. Ce qui est parfois simple, parfois plus complexe, dépendamment de l'organisation. Puis, il va aussi créer un ensemble d'exceptions incontrôlables. Et les exceptions, en fait, c'est ça qui confirme la règle. Et ce qui permet généralement d'attaquer une organisation, on va aller taper dans ces exceptions. C'est là où on voit que tout château de cartes peut s'écrouler. Les exceptions, c'est parfois utile. Mais quand on est obligé de redresser une situation qu'avec des exceptions, ça devient très compliqué d'assurer la gestion du risque à ce niveau-là. C'est pour ça qu'aussi, il faut trouver un équilibre. Alors, c'est vraiment une phrase un peu facile, mais il faut y aller par itération et comme du code, en fait, finalement, refactoring. Il y a des documentations qui sont fournies, justement. Control Tower, par exemple, a des modèles qui peuvent se mettre à jour. Microsoft a des Landing Zone Refactor. Ils ont des modèles, on peut évoluer par... On peut commencer par une petite Landing Zone avec quelque chose d'assez simple, puis évoluer, grandir avec le temps et aller quelque chose qui soit plus enterprise ready, ou plus gros, ou pas. Ça dépend de l'organisation, de sa structure, sa taille. L'idée, c'est de démarrer avec un modèle plutôt que déjà un abonnement tout simple. Commencer quelques workloads, connecter les systèmes, déployer plusieurs workloads, avoir des retours d'expérience, des retours des développeurs aussi, des équipes, produits, et rajouter au fur et à mesure de la sécurité. C'est sûr qu'il y a des guardrails, des garde-fous à mettre en place dès le début. Par exemple, on ne va pas mettre des buckets ou des storage en public. Puis on va essayer de forcer le chiffrement ou ce genre de choses, mais on ne va pas aller interdire par exemple des tailles de machines virtuelles dès le premier coup. On peut bloquer les pays, ça peut être utile pour certains cas, mais on ne va pas aller rentrer trop profondément dans le contrôle parce que sinon on va freiner les déploiements et les retours. À la fin, l'idée pour ces modèles-là aussi, c'est d'avoir une équipe CCOE, un centre d'expertise cloud, en général avec plusieurs spécialités dans l'équipe, puisqu'on l'a vu, les landing zones, c'est de la sécurité, c'est de la réseautique, c'est de la gestion des coûts, c'est de la gestion communication avec les équipes DevOps. Comparaison, si on compare en fait les différents modèles de landing zone chez les CSP, les fournisseurs d'infos nuagiques, j'ai fait une appréciation personnelle. Ça rejoint un petit peu les évaluations du global en fait de tous les services cloud qu'on aurait chez Gartner, mais là j'ai fait un focus plus sur ce que je trouvais, je connaissais au niveau des modèles de landing zone chez les fournisseurs. On a quand même un leader du marché, mais parce qu'il a la maturité, l'historique et puis le nombre de ressources, qui est AWS, qui est un peu la référence sur ce modèle-là. Leur gamme de ressources et de services est tellement grande. On a Azure qui suit bien quand même la tendance. Google qui a un modèle un peu différent puisque c'est moins orienté pour des connectivités avec des services existants. Google, c'est plus du vraiment cloud native. Donc la landing zone n'est pas toujours le premier modèle mis en avant. On a Oracle aussi qui a une tentative de landing zone, mais j'ai pas d'expérience là-dessus. Alibaba a de la documentation là-dessus. Je sais pas qui est chez Alibaba, on en parlait tout à l'heure. Puis on a des groupes, des fournisseurs tels que Tencent. J'en parle car ils sont dans les quadrants. Ou IBM. Moi, j'ai pas trouvé de documentation relative à ça. Je sais pas si c'est des concepts qui sont implantés ou c'est parce que j'ai pas passé assez de temps. Mais ça a l'air d'être compliqué de trouver de l'information. Là où, par exemple, pour les gros fournisseurs, il suffit d'aller sur GitHub et on trouve tout de suite leur repo avec des dizaines de modèles, en fait, parce qu'il n'y a pas non plus qu'un seul modèle. Donc, si on parle d'Amazon, ça, c'est un modèle justement qu'on retrouve dans la documentation. Comme on le voit, en fait, on a la partie management, on a la partie workload, on a la partie log archive. Ça, c'est un ancien modèle. C'est introduit depuis 2018, en fait, chez Amazon. Et aujourd'hui, on est plus sur un modèle géré et piloté par leur solution qui fait à peu près tout, qui est Control Tower. C'est vraiment l'outil d'automatisation et de déploiement pour la gestion multi-compte chez AWS. C'est une étape indispensable. On retrouve aussi des concepts comme la partie gestion du code, comme on le voit ici, c'est vraiment quelque chose qui est intégré. C'est pas quelque chose qui est anecdotique, en fait. Il n'y a pas d'autre solution que de passer par ça. Dans une landing zone un peu plus avancée, donc du coup du côté d'AWS, ça ressemble à ça. On voit bien qu'on a des services, par exemple, d'archive pour la journalisation. La partie d'audit avec l'activation de services, c'est là, quand on conçoit une landing zone, on va choisir un peu les services qu'on veut activer, parce que ça coûte de l'argent quand même. Puis des fois, ça peut se recouvrir avec d'autres choses. Mais des outils comme GuardDuty ou SecurityHub pour la centralisation des alertes de sécurité, ou SNS pour la communication. Les shared service account avec Inspector pour l'auto-discovery de vulnérabilité sur les machines, les conteneurs ou autres. C'est un peu comme ça que c'est disposé du côté d'AWS. Puis là, par exemple, ils ont un modèle avec des comptes de production, puis à côté un modèle avec des comptes non production. Bien sûr, on a le master, le root, la tête qui est en haut, qui pilote tout ça avec les organisations. Ça, c'est un autre modèle. Il y en a plein des modèles. Tout ça pour dire qu'on a du CloudFormation, on a du YAML, on a du pipeline, on a toujours ces concepts de code pour déclarer l'infrastructure. Du côté de Microsoft, c'est à peu près le même principe, ils se sont alignés sur ce modèle. Là, on a une petite animation qui nous montre un peu que une landing zone, c'est évolutif, c'est pas du marbre gravé pour toujours, ou un diamant plutôt. On peut rajouter des fonctionnalités, on peut la faire croître. L'idée, c'est toujours garder le contrôle sur la gouvernance, la sécurité et les éléments. Microsoft a un concept de zone accélérateur qui permet vraiment rapidement d'enabler toute une structure dans un environnement existant et ensuite de faire progressivement la migration si on avait des charges existantes ou simplement de commencer à migrer. Ça, c'est un modèle assez simple. Par exemple, pour démarrer, on parle toujours de 2 abonnements ou 2 comptes. On parlait de multi-comptes tout à l'heure. La base, c'est minimalement 2. On a un abonnement de management où on se retrouve avec un peu de storage pour de l'archive de journaux et de la partie log analytique pour les journaux. Et de l'autre côté, on a une landing zone où on aurait des applications et une partie probablement réseautique. Si on a un modèle encore plus avancé, on pourrait avoir par exemple tout ce qui est partie management, donc les log analytics pour les journaux, une partie réseautique, connectivité, firewall, isolé, et une partie, parce qu'on est dans l'environnement Microsoft, Domain Controller. C'est pas forcément ma préférée, mais ça existe encore. Et on peut séparer, par exemple, des abonnements qui seraient corpo, pas forcément exposés Internet, puis d'autres abonnements qui, eux, auraient vocation probablement, par exemple, à être sur Internet comme un site e-commerce.
Ouais, je fais un petit jump sur les domaine contrôleurs. Normalement, on essaie de plus faire ce genre de choses-là. C'est des choses de sur-site qu'on ramène. S'il vous plaît, faites pas ça. Si vous migrez en info nuagique, convertissez vos applications pour utiliser Azure AD au minimum parce que ça va, vous savez beaucoup de troubles puis vous réduisez tellement votre surface d'attaque en ne disposant plus de DC en info nuagique. Là, j'ai vu des cas de DC qui sont fait défoncer en info nuagique parce qu'ils étaient mal sécurisés, se sont trouvés être exposés malheureusement puis ont été complètement pétés. Et ils pètent le DC de l'organisation en même temps. Fait que ça devient très, très dommageable. Donc, si on peut s'éviter ce problème-là, vaut mieux se l'éviter.
C'est certain qu'un domaine contrôleur, qu'il soit sur site ou dans le cloud, il a toujours les mêmes failles. Les mêmes vecteurs d'attaque, on va essayer de les protéger le plus possible si on n'a pas le choix. C'est une réalité, hein, c'est souvent aussi le point d'identité pour de nombreuses organisations avec la synchronisation avec Azure AD. Et donc, ça reste une porte d'entrée. Idéalement, c'est certain qu'il vaut mieux avoir un système où on n'a pas forcément d'identité locale de ce type-là et on part sur des protocoles modernes en utilisant des sources d'identité, que ce soit Azure AD, Okta ou peu importe. Là, on est sur un modèle, ce qu'on appelle plus l'Enterprise Scale, où Microsoft, en fait, justement, structure. On retrouve les fameuses plateformes Identity Management Connectivity, un peu comme dans AWS. Puis les landing zones, là, ils les ont fait, par exemple, par applicatif. On parle de SAP, on parle de Corp ou d'Online, un peu encore pareil que AWS. Ce qui peut être intéressant, c'est un decommission ou un sandbox. Sandbox, comme ça, on peut contrôler, encadrer les sandbox, les bacs à sable d'expérimentation. Puis on peut mettre des politiques de gestion des coûts, par exemple. C'est-à-dire, c'est $200, pas plus, où on a des alertes. Et ça, c'est toujours intéressant plutôt que d'avoir plutôt que de dire toujours non pour des environnements d'expérimentation ou de dire oui, mais pas contrôler les coûts. Là, on peut le faire de façon encadrée avec une certaine limitation des coûts, une certaine limitation de ce qu'on peut faire dedans. Mais ça ne peut pas nuire à la production de l'organisation. Donc ça, c'est un peu le modèle. Comme on le voit, les sandbox ici sont isolés. Ici, on aurait des landing zones où on aurait du peering, en fait, pour passer vers un environnement de centralisation réseautique. Là aussi, il peut y avoir des considérations selon la taille et la distribution de l'organisation, parce qu'en fait, on peut avoir des considérations techniques dépendamment de l'implantation et de déploiement des ressources. On ne s'amuse pas à faire du peering comme ça, sans impact économique ou sur la performance entre, on va dire, le Japon et Vancouver ou Vancouver et Zurich. Il commence à y avoir des considérations, des designs à réfléchir à ce niveau-là. Au niveau de Google, c'est un peu plus simple leur modèle. Google est surtout essentiellement, on en discutait, cloud native, donc on retrouve beaucoup plus nativement en fait des designs orientés des solutions de conteneurs comme GKE. Mais il y a quand même une documentation, une organisation à ce niveau-là. Là où chez Microsoft, on a Defender for Cloud et chez AWS, on a Security Hub. Chez Google, on a une solution centralisée pour la sécurité qui est Command, Security Command Center. On a aussi une notion d'organization policy. Ils sont un peu moins, on va dire, verbeux sur leur documentation là-dessus, parce qu'à mon avis, c'est pas non plus leur modèle de prédilection d'avoir cette organisation-là. Ils fonctionnent différemment. Au niveau d'Oracle, juste, j'ai mis le diagramme. Moi, je l'ai jamais utilisé. Ça me semble moins mature parce qu'ils ont peut-être moins d'expérience encore sur le marché. Mais on retrouve un peu cette documentation-là et ces diagrammes classiques. Alibaba aussi a ce modèle-là. D'ailleurs, eux mettent en avant du SAML. Ils ne parlent pas d'Active Directory. C'est amusant. Mais Alibaba est beaucoup moins présent encore aujourd'hui. Puis il n'y a pas forcément de retour d'expérience grandissant.
C'est d'autant plus comique que s'ils s'appuient sur un modèle américain pour l'identité avec des charges qui sont hébergées en Asie ou en tout cas dans une zone qui est généralement peut-être un peu plus hostile à l'Occident. Tout ça est particulier, disons.
Peut-être que la documentation changeait dépendamment de la langue et de l'origine du visiteur. Mais en tout cas, ils ont une documentation à la différence d'autres fournisseurs, comme on a vu tout à l'heure, où je n'ai pas réussi à retrouver, par exemple, chez Tencent ou chez IBM. Ce qui est déjà un premier indicateur probablement de maturité là-dessus. Si on met plus que 5 minutes à trouver une documentation, c'est qu'il y a un problème quelque part. Tout ça pour dire qu'au niveau des landing zones, on l'a vu, il y a plein de modèles. Il faut trouver l'équilibre, itération, refactoring. Mais j'ai oublié de changer le titre, mais il y a une notion de coût quand même inhérent à cela. Typiquement, ça ne prend pas en compte les notions, par exemple, de réseautique, de trafic entrant ou de type de journalisation, combien de gigas ou de terras de logs vous allez avoir. Mais de base, en fait, vous allez avoir un certain nombre de frais fixes lorsque vous déployez une landing zone, que ce soit sur AWS ou Azure. Ça, c'est des coûts à titre indicatif, hein, mais bien sûr, il y a des calculateurs, il y a des simulations à faire. Un peu plus clair du côté d'AWS, un peu plus compliqué ou différent, on va dire, du côté d'Azure, où il faut aller sur le calculateur. Et donc, il faut faire soi-même le calcul, alors qu'à AWS, lorsqu'on a les packages CloudFormation Accelerator, enfin pour la landing zone, nous disent tout de suite combien ça va coûter. On parle de $500 du côté de AWS pour toute la partie, on va dire KMS, config et CloudTrail. Et on parle d'à peu près $500 aussi. J'ai essayé de refaire à peu près le même niveau du côté d'Azure pour les parties Sentinel, Storage. Bien sûr, ça ne comprend pas, par exemple, des ingestions de logs de 100 gigas et plus, par exemple. Ça ne comprend pas, par exemple, non plus la partie firewall qui peut coûter plusieurs 1700, $2000, je vois quelque chose comme ça chez Azure. La DDoS protection qui peut être activée par défaut lorsqu'on fait un accélérateur, on parle de quand même $4000 dans Azure. Donc ça, c'est les basics. Ça dépend un peu après ce qu'on va faire. Correct jusque-là?
Tout va bien jusque-là.
J'ai pas été vérifié chez les autres, mais ça doit être à peu près les mêmes ordres, grandeur de coûts. Au niveau démo, donc ça serait essentiellement sur Azure. Pour rappel, c'est un peu le comment aussi, en fait, puisqu'on parle beaucoup de solutions. On était dans le concept. Comment ça se déploie? Manuellement, hein, ça peut se faire par le portail ou par le script. Faut pas le faire. On peut le faire par deux portails, mais ça peut être amusant à faire dans un lab ou juste pour aller fouiller, pour aller voir. Mais en fait, on fait pas un déploiement à ce niveau-là parce qu'on va casser toute la dynamique d'évolution qu'on pourrait avoir par la suite, justement, de pipeline. Et donc, c'est peut-être plus pour une démo qu'on peut s'amuser à faire ça ou pour aller fouiller, pour voir. Mais en fait, il faut globalement éviter les portails dans les solutions info nuagiques. Avec des blueprints. Les blueprints, c'est un packaging, on va le voir par la suite, de déploiement et d'application de policy, et ça permet de créer un package répétable avec des modèles fournis par Microsoft, les Landing Zone Accelerator, qui sont des templates avec un questionnaire, justement, et tout le travail va être de répondre aux questions avant de lancer le processus. Et puis, on peut le faire aussi en infrastructure par le code avec du Bicep. qui est le Azure Resource Manager nouvelle version, on va dire, ou du Terraform, il y a aussi un projet là-dessus. La différence qu'il va y avoir avec les accélérateurs, c'est que on va être capable d'être très granulaire avec du Bicep, parce qu'on va utiliser ces modules, puis on va pouvoir voir ce qu'on, très précisément ce qu'on veut déployer. C'est très bien sur le moyen long terme. C'est peut-être un peu plus long si on veut démarrer. L'accélérateur est préconisé à ce niveau. Au niveau des blueprints, je mets quelques informations. En fait, les blueprints, ça inclut de la partie airbag, de la partie définition des policies. Les policies, c'est vraiment ce qui va encadrer l'application de la gouvernance et des restrictions ou des corrections. Puis des templates, en fait, pour déployer des ressources. Ça va être composé. En fait, on retrouve des termes qu'on aurait dans du Docker, du Compose. Et ça va permettre de déployer ça sur un abonnement, subscription, de façon automatisée. Dans l'exemple, Microsoft fournit, par exemple, des blueprints pour lancer une landing zone, un début de landing zone. Ça va déployer, en fait, un Key Vault, ça va déployer un Log Analytics, comme on l'aura avec un template ARM ou Bicep. Ça va activer, ça dit déployer, mais en fait, c'est une activation pour moi, Defender for Cloud, ce genre de choses. Et puis, ça va créer, en fait, et appliquer, assigner des policies telles que le cost center, telles que les régions pour les ressources groupes, ou ce genre de choses de façon automatique. Les policies, ça peut toujours être appliqué après, de toute façon. On peut toujours s'accorder là-dessus, mais dès qu'on les a dès le début, surtout si elles sont restrictives, c'est intéressant. À savoir que on a les blueprints sont en mode pré-version. C'est toujours gênant d'être sur quelque chose qui est, je sais pas s'il va être pérenne. Il y a un autre modèle qui existe aussi, qui lui aussi est en pré-version chez Microsoft, qui est le template spec. Les template spec, eux, par contre, n'ont pas la même portée que les blueprints, qui eux incluent du airbag et de la policy. Les template spec vont être plus basés sur les ARM templates. Mais c'est une possibilité pour appliquer un début de landing zone. Autre modèle, on en a parlé, ça va être l'IAC quand on va être vraiment structuré. Donc on a Terraform, on a un module Terraform qui permet d'agir. Lui, il n'agit pas par exemple sur les domaines contrôleurs, il ne joue pas sur la partie identité. Il n'agit que très peu sur la partie landing zone. Mais il peut permettre de déployer en fait une landing zone en Terraform si c'est déjà le langage de prédilection dans l'organisation. Il peut créer des management groups, il peut créer certaines ressources et il peut structurer ça. On a sinon la partie Bicep qui elle en fait va faire à peu près tout comme on peut le voir, donc la création, la gestion des managements, la définition, l'application, l'assignment du airbag. Ok. Et enfin on a le Landing Zone Accelerator qui est un template pour déployer rapidement. Qui est basé aussi sur du ARM et un ensemble de scripts qui permettent en fait de déployer dans un environnement existant ou tout neuf en fait, peu importe. Une landing zone. Rappel, une landing zone, cette solution par exemple, ça vous rend pas conforme, ça crée une fondation. Y a une fois que la landing zone est déployée, le travail n'est pas terminé. Il y a toujours des choses à rajouter. C'est une première itération par rapport à ce qu'on s'attend. Puis il y a toujours des choses à réévaluer. Lorsqu'on voit par exemple qu'on a des non-conformités, on peut venir les corriger en mettant des mesures restrictives, correctives et de détection. En fait, il faut toujours commencer par là. Mais c'est une première étape. Pour cette partie-là, ce que je vais faire, c'est... Hop. Ok, je vais juste vous montrer déjà ce que ça donne, un exemple que j'ai déployé dans mon organisation pour du test, qui était une landing zone. Donc en fait, des management groups, c'est des ressources au niveau d'Azure. mes subscriptions sont déjà créées, en fait. Donc typiquement, j'en ai une qui est positionnée ici, puis j'en ai une qui s'appelait Connectivity, puis une qui s'appelait Management. Au niveau du déploiement pour les accélérateurs, en fait, il y a un projet GitHub chez Microsoft qui s'appelle Enterprise Scale. Tout ça pour dire qu'on a un environnement avec une racine dans lequel j'ai des management groups où j'ai déjà positionné des subscriptions, mais j'aurais pu ne pas le faire. L'accélérateur peut le faire pour vous. Je vais juste vous montrer cette partie-là. Donc, on a un fameux projet GitHub chez Microsoft qui permet en fait d'avoir les ressources à ce niveau-là. Et on a les Enterprise, on a les ARM, on a la documentation et on a différents modèles dans cet Enterprise. Donc Microsoft fournit plusieurs modèles. Vous avez la documentation à chaque fois. Celui que j'avais fait et qu'on va regarder, bah, c'est un modèle on-premises, enfin avec de la connectivité. On reparle de Hub and Spoke justement, comme on disait tout à l'heure. Le Hub and Spoke, c'est pas tout, mais c'est une des choses. Pour petite entreprise ensuite, on a directement un launcher du côté de Microsoft qui permet de travailler justement pour faire ce déploiement. Lorsqu'on va sur ce launcher, c'est là où le travail de préparation est à faire. On peut retrouver un peu notre directory, on veut faire ça, la région où on va pouvoir travailler. On a un template aussi où en fait. Hop là, je vais aller voir. Ah, il me ramène sur ça. C'est pas exactement celui-là que je voulais voir. Edit template. Hop là. Donc on se retrouve avec du template ARM où Microsoft en fait fournit, a déjà travaillé justement sur cette partie déploiement de ressources. On pourrait faire le sien en bicep, c'est la même chose. On peut récupérer le template, bien évidemment, on peut le télécharger. L'avantage de l'accélérateur, c'est que lui va nous poser les questions, puis on va citer automatiquement les variables. Et c'est une opération assez rapide à ce niveau-là. On peut avoir un management group préfixe. Ça va être en fait le nom qu'on va donner à cette structure. Ce qu'on voit là, c'est un management group, mais au-dessus, en fait, il y a la racine. On pourrait très bien avoir plusieurs landing zones dans une organisation. Une très grande organisation qui aurait des activités différentes pourrait avoir des structures d'organisation différentes, tout ça réuni sous un même tenant. Encore là, il y a des avantages, des inconvénients, mais ça serait possible. Si on l'appelait par exemple test ou démo, mon clavier ne veut plus fonctionner. Hop là, je ne m'arrêterai pas juste à cette erreur. Et c'est à partir de là, en fait, où on va voir tous les composants de la landing zone automatiquement qu'on veut déployer. Log Analytics Workspace, il n'y a pas vraiment de discussion à avoir. C'est le composant de journalisation qu'on utilise dans Azure. Si on n'en veut pas, il vaut peut-être mieux reconsidérer le fait d'aller dans Azure. C'est un composant essentiel comme du CloudTrail dans AWS. On ne négocie pas trop avec cette partie-là. C'est pour ça que c'est marqué Recommended. Ce qui va être important, c'est de déterminer par rapport aux politiques le nombre de jours. Il va falloir choisir une subscription, par exemple, où on va mettre la partie plateforme. Par exemple, moi, la mienne, on va dire que ça va être management. Parce que là, on peut récupérer des abonnements existants. Généralement, quand on crée une landing zone, on parle d'abonnements fraîchement déployés, fraîchement créés. Là aussi, avec AsOps, il est possible de les automatiser, ces créations-là. Mais là, on est plus dans la livraison d'abonnements. Pour la landing zone, on peut le créer à la rigueur depuis le portail et ensuite faire l'association à ce niveau-là. Ces parties-là, ensuite, c'est toutes les fonctionnalités qu'on peut regarder, savoir si c'est des choses qu'on veut déployer. C'est sûr que si on ne fait pas de SQL, on n'a pas besoin de le déployer. Recommandé ou optionnel, ça dépend. Il y a des notions de coût. C'est cette partie-là qui est analysée. Là, l'accélérateur, lui, va juste le faire. La partie Defender for Cloud, là, c'est Azure Defender. C'est pareil, c'est l'outil intégré qui fait notamment CSPM du côté d'Azure. On peut en choisir un autre, mais c'est fortement recommandé en général d'utiliser l'outil du cloud provider comme on veut utiliser du Security Hub ou du Inspector dans AWS. Sentinel, là, c'est pareil, il y a des coûts, c'est le SIEMSOAR. Donc ça, c'est là pour la partie plateforme. La partie connectivity, c'est là où vous allez pouvoir, par exemple, définir votre premier réseau. La partie DDoS, si vous voulez payer $4,000 d'un coup dans votre lab, je vous conseille de ne pas cliquer sur yes. Là, c'est pour votre partie connectivité. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, Microsoft considère que vous êtes sur un modèle où vous allez en fait avoir un hub de connectivité avec du VPN. Donc, il faut vous protéger contre les attaques DDoS et on vous met un firewall. Par défaut, moi, j'étais en no, parce qu'en fait, je partais d'un modèle où je n'avais pas forcément cette connectivité-là. Et ensuite, il y a la partie landing zone, qui est vraiment l'abonnement où vous allez avoir vos premières workloads, mais vous pouvez en avoir plusieurs. Et c'est la structure. C'est là où vous pouvez, par exemple, appliquer des politiques dans landing zone, par exemple, pour interdire le RDP depuis Internet. Quoi qu'il arrive, le RDP ne sera pas possible. C'est généralement une bonne pratique. La même chose s'applique normalement pour le SSH. Je ne le vois pas. Il faut créer la politique SSH typiquement en Day 2 Operation. la prévention d'IP forwarding, on n'est pas censé d'avoir d'IP forwarding dans une landing zone puisqu'on a un hub de connectivité. Alors, on n'est pas censé passer par là. Ça, c'est un ensemble d'éléments qui sont à déployer. Donc là aussi, on peut choisir d'appliquer ça, par exemple, sur un abonnement. Moi, je le ferai, par exemple, sur mon abonnement ici. Comme pour tout template ARM, il y a une validation. Dans la partie connectivité, il lui manquait quelque chose. Il faut que je lui dise non. Hop là. Là, on ne va pas le déployer parce que ça peut mettre du temps. Juste montrer le résultat.
Ouais, tu leur forçais à recompiler. Là, il est...
Je suis reparti sur un autre node. Il n'aime pas ça. Théoriquement, c'est censé passer. Théoriquement, quand c'est de l'IAC qui l'a validé, il est censé fonctionner. Il y a toujours des réalités. En fait, des fois, l'IAC vous dit que tout est correct, hein, même en Terraform. Puis quand vous appliquez, en fait, il peut y avoir des erreurs. Là, il a validé la compilation, on va dire, ou la validité. On a un petit résumé un peu des fonctionnalités. Et puis, c'est tout. Une fois que ça va être créé, en fait, comme on peut le voir, par exemple, dans un platform management, on va se retrouver avec un certain nombre de ressources qui ont été automatiquement configurées. Puis, on va avoir des solutions Log Analytics Workspace. On va avoir un compte d'Azure Automation qui va être prévisionné. Et on va avoir un ensemble de policies aussi qui sont appliquées. Hop là. Qui nous permettent, par exemple, d'appliquer ou de déployer des diagnostic settings sur nos ressources. Ou d'appliquer, de déployer et d'activer automatiquement des ressources Defender for Cloud. Donc là, en fait, on a la garantie que quand on va créer un nouvel abonnement pour un nouveau produit dans la landing zone, application Corp ou Online, tout dépendamment le programme qu'on aura défini, en fait, on va avoir un ensemble de airbags, de policy, de gestion des coûts qui va avoir été créé. Est-ce que si je retourne là, ça fonctionne? C'est ça. C'était un peu tout pour la partie démo accélérateur. On a des modèles plus gros, comme vous pouvez le voir. Si quelqu'un veut s'amuser ou se tester à ça, en fait, il suffit simplement de regarder un peu les questions qui vont être à mettre. Microsoft fournit aussi, par exemple, c'est à peu près pareil du côté d'AWS, des partenaires qui peuvent aider à ces déploiements. Ils fournissent aussi des programmes de mise en place. Généralement, ils appellent ça fondation. Ça s'étale sur plusieurs semaines, mais ils le tambombent. Ou le Tambox, pour être sûr que ce ne soit pas quelque chose qui soit... c'est pas un projet d'un an pour créer et déployer ça. Au niveau des ressources, je partagerai ça, mais il y a des vidéos intéressantes du côté de Microsoft. La développeur, parce que on est sur un système avec du code. Donc, on a de quoi en biceps qui est partagé, qui est très intéressant avec les options qui sont alignées avec le CAF. On peut aussi avoir des review assessments pour se poser des questions et voir si notre alignement est correct par rapport à ce qu'on devrait faire par rapport au CAF. Et du côté d'AWS, on a aussi des channels intéressantes sur YouTube, peut-être sur Twitch, mais je n'ai pas été regardé, concernant Control Tower et notamment le fait d'onboarder du Control Tower avec des organisations existantes parce que c'est jamais... c'est pas quelque chose qui se fait et c'est terminé, fallait pas rater le train. On peut rattraper la situation en déployant ça à côté et en faisant les systèmes de migration. Et très important du côté d'AWS, c'est l'implementation guide qui est pour l'accélérateur.
Et puis même au-delà de rattraper, ça évolue tout le temps, ces choses-là, c'est vivant, donc on doit les maintenir, on doit les réactualiser assez régulièrement pour faire suite justement à l'évolution des différents fournisseurs et finalement l'augmentation de richesse de ce qu'on offre et la maturité de l'organisation justement pour mettre des nouveaux guardrails, mettre des nouvelles préoccupations, des nouveaux éléments normatifs. Là, on fait juste regarder le changement législatif au Québec. Va devoir changer un certain nombre de choses. Donc, il y a des préoccupations qui vont se refléter nécessairement dans ces éléments-là qui devront évoluer en conséquence.
Notamment cette vidéo qui parle de l'update vers la Landing Zone 3. On a des updates justement avec des ajouts, des fonctionnalités nouvelles. Ça peut découler soit des bonnes pratiques, soit des cadres législatifs, comme tu le disais, ou autre. Et ça fait le tour.
Merci énormément. Très intéressant, très bon tour. Justement, ça nous permet justement de recadrer ça aux bons endroits. Puis j'ai l'impression que ça va aider à guider les gens à faire des choix plus éclairés à ce niveau-là.
Ben, j'espère. J'espère bien.
Merci.
De rien. Bonne journée.